Nzamba.
Nzambi rasamirana.
Le journal avec Josephine Jones Mundimana.
Bienvenue à toutes et à tous sur la radio Inzamba Gatikakawe au sommaire de l'actualité de ce jeudi 21 juillet 2022. Lancement ce jeudi de la campagne de vaccination contre la fièvre de la vallée du Rift qui sévit dans 13 provinces, c'est un ouf de soulagement pour les éleveurs dont les activités ne leur procuraient presque plus de revenus. Commémoration du massacre de Bugendana. 648 déplacés de guerre ont péri dans une attaque perpétrée par les rebelles du FDD dans la nuit du 20 au 21 juillet 1996. L'association contre le génocide, AC Génocide, dénonce le laxisme de la justice burundaise vis-à-vis des auteurs de ce carnage. Des voix continuent à s'élever pour proclamer la libération du docteur Christophe Sahabo, ancien directeur de l'hôpital Chira, accusé de malversation. La société privée SwissMed International estime que son maintien en détention n'est pas de nature à attirer les investisseurs étrangers. Les précisions, c'est dans ce journal.
Suivez les émissions de la radio Inzamba en direct sur le www.inzamba.org.
D'abord, cette bonne nouvelle pour les éleveurs. La campagne de vaccination contre la fièvre de la vallée du Rift a officiellement démarré ce jeudi en province Ngozi. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage compte ainsi faire face à cette maladie qui attaque les bovins, les ovins et les caprins depuis avril dernier. Les détails avec Pierre Gahungu.
Cette activité a eu lieu sur la colline Kinyami de la ville de Ngozi, à une étable de 34 vaches appartenant à un certain Séléus Ndabarushimana. Comme la même activité a eu lieu le même jour en province de Karusi, les deux provinces ont réceptionné chacune 500 vaccins. Le ministre en charge de l'environnement, de l'agriculture et de l'élevage avait été représenté par Serge Nkurunziza, le directeur général en charge de l'élevage, accompagné du secrétaire permanent au ministère de l'Intérieur. Serge Nkurunziza a déclaré que 100 000 autres vaccins sont attendus dans un futur proche et il a promis que tout le gros bétail sera vacciné à travers tout le pays. Mais concernant les chèvres et les moutons, il a dit que leur vaccin sera disponible après. Ce responsable a fait savoir que le choix de la province de Ngozi a été dicté par le fait que c'est dans cette circonscription où cette épidémie s'est déclarée pour la première fois, avec jusqu'aujourd'hui un record de 273 décès.
Et puis, ce triste anniversaire, ça fait 26 ans que les déplacés de l'ethnie Tutsi du site de Bugendana ont été brutalement tirés de leur sommeil et massacrés par des rebelles du FDD. Dans un communiqué sorti ce jeudi, l'AC Génocide Section Canada regrette que les auteurs de ce massacre n'aient pas été poursuivis. On écoute Emmanuel Nkurunziza, le secrétaire de l'AC Génocide.
Nous avons d'abord tenu à nous incliner devant la mémoire de ces innocents. Nous avons ensuite tenu à rappeler que ce massacre intervient à une période où la rhétorique anti-Tutsi regagne d'importance, de vigueur, non seulement au Burundi, mais aussi et surtout dans la sous-région. Nous avons cité justement le récent rapport du groupe d'experts des Nations Unies sur la République démocratique du Congo, qui a bien montré que derrière la rhétorique des manifestants réclamant ou plutôt s'attaquant aux Rwandais, il se cachait un discours anti-Tutsi et que les personnes visées dans les violences qui s'en ont suivi étaient exclusivement du groupe social Tutsi. Nous avons ensuite rappelé que quelque dérangeant que cela puisse être, ça m'a une origine tout à fait traçable dans l'histoire parce que les massacres de Bugendana que nous commémorons aujourd'hui ont eu lieu à peu près une année après la signature d'une convention de coopération entre le CNDD-FDD d'une part et les ex-phares responsables du génocide des Tutsis au Rwanda d'autre part. Et c'était le 21 mai 1995 à Bukavu, Zaïre d'alors, c'est-à-dire la RDC d'aujourd'hui, que donc cette illogique de viser les Tutsis a bel et bien été identifiée et qu'elle a des auteurs qui s'en vantent et qui restent impunis, même si les Nations Unies ont déjà identifié les auteurs.
Le secrétaire de l'AC Génocide appelle par ailleurs les Nations Unies à mettre en place un tribunal pénal international pour punir les auteurs de ce qu'il qualifie de génocide commis au Burundi. Écoutez encore une fois Emmanuel Nkurunziza.
C'est ainsi que nous avons tenu également à interpeller les Nations Unies en cette commémoration. ce que met en application les recommandations de son propre rapport, portant le numéro S-1986-682, particulièrement son paragraphe 496, qui recommande la mise sur pied d'un tribunal pénal international pour réprimer les auteurs du génocide de Tutsi au Burundi. Nous avons également tenu à mentionner, ou plutôt à rappeler aux mêmes Nations Unies que cette persistance d'une idéologie anti-Tutsi dans la sous-région est encouragée par la non-application de cette clause de l'accord de Lusaka pour la paix en RDC, accord signé juste en 1999, qui porte le numéro S-1999-815, dont l'annexe A, chapitre 9, recommandait entre autres choses le démantèlement et l'interdiction des forces négatives. Et ce chapitre identifiait clairement le CNDD-FDD aujourd'hui au pouvoir au Burundi comme étant une de ces forces négatives. Et nous avons enfin interpellé les acteurs du Plus Jamais Ça et inter alia ceux qui œuvrent dans le domaine des droits humains de garder un œil sur la sous-région des Grands Lacs est-africains et particulièrement sur le Burundi, un pays atypique où c'est malheureusement une organisation qui a déjà été identifié par les Nations Unies comme faisant partie de l'international génocidaire de la région qui est au pouvoir et que de ce fait, tant aussi longtemps que ce sont ces criminels impunis et impunitants qui resteront au pouvoir, il reste complètement impossible pour les rescapés de ce génocide d'avoir quelque justice que ce soit.
C'était Emmanuel Murunziza de la génocide de Chirimoso. Dans un instant, la suite de l'actualité sur la radio Inzamba.
Inzamba.
Appel à la libération du docteur Christophe Sarabo, ancien directeur de l'hôpital Kila. Il est lancé par la société privée Swiss Med International Limited, principal actionnaire, à travers une note confidentielle adressée au gouvernement du Burundi et dont la radio Inzamba a pu se procurer. Swiss Med International Limited fait savoir que sa détention ternit l'image du Burundi et constitue un obstacle à l'amélioration du climat des affaires au Burundi. Plus de détails avec Josine Kadze.
Dans cette note confidentielle de 11 pages que détient la radio Inzamba et parue le 18 juillet 2022, Swiss Med International, actionnaire principal de Kila Hospital, indique que l'affaire Christophe Sahabo est un grotesque montage visant la spoliation des actionnaires privés dont l'investisseur suisse au profit de certains groupes politico-mafieux proches du pouvoir de Gitega et de renchérir que l'affaire est exclusivement politique et non pénale. La note confidentielle démontre que la gestion de l'hôpital était collégiale et non individuelle entre le directeur général en la personne de Dr Christophe Sahabo, le directeur administratif et financier, l'Assemblée générale des travailleurs et le conseil d'administration. Celui-ci étant composé de représentants des différents actionnaires, y compris l'État du Burundi. La note révèle la source d'accusation contre le Dr Christophe Sahabo à la page 5 de ce document. Cette source étant les conditions posées par l'actuel directeur général de la société d'assurance de Burundi, Sokabu, Charles Ndagijimana, pour que l'hôpital Kila obtienne une restructuration d'un crédit à la banque de crédit de Bujumbura, BCB. Ce dernier a été sollicité par le directeur de Kila Hospital, Dr Christophe Sahabo, pour qu'il puisse intervenir auprès de la BCB afin que l'hôpital obtienne cette restructuration de la dite dette. L'intervention de Charles Ndagijimana, directeur de la Sokabu, avait posé trois conditions. La prise de contrôle de Kila Hospital, devenir président du conseil d'administration et l'augmentation du capital de l'actionnaire majoritaire Swiss Med International. La note confidentielle indique que ces conditions n'étaient pas du ressort de la direction de Kila Hospital, mais de l'Assemblée générale et du conseil d'administration. La direction de l'hôpital a décidé de contacter directement la BCB et de lui exposer une demande argumentée pour obtenir la restructuration du crédit. La banque a compris la requête et a accepté la demande. Lorsque M. Charles Ndagijimana a découvert que la restructuration avait finalement été obtenue sans qu'il puisse accéder à ces conditions, il a proféré des menaces ouvertes à l'encontre de Christophe Sarabo. Cette note indique que depuis son enlèvement par le Service national des renseignements, le dossier relatif à la détention du docteur Christophe Sahawo est émaillé de plusieurs irrégularités. En plus des violations de la loi dans sa détention, plusieurs documents physiques qui ont été fournis par l'accusé et qui devraient constituer les éléments à des charges ont été systématiquement extraits de son dossier. Et de réfléchir qu'une somme de 20 millions de francs burundais qui a été saisie dans son bureau lors de son arrestation n'apparaît nulle part dans le dossier, alors que le Service national des renseignements avait fait un procès verbal de saisie. Le SwissMed International demande la libération inconditionnelle et sans délai du docteur Christophe Sahawo. Il conclut dans cette note que sa détention ternit l'image du Burundi et qu'en somme, elle constitue un véritable frein à tout investissement étranger.
Un autre appel à la libération, celui des proches de Justin Sibomana, qui demande qu'il recouvre la liberté de mouvement. Cela fait plus d'une semaine que cet habitant de Lomongue est incarcéré au cachot de la police judiciaire de cette province. Il est accusé d'avoir dénoncé l'abattage clandestin d'une vache sur la colline Gachacha de la commune et province Lomongue. Sa famille estime que Justin Sibomana n'est qu'un bouc émissaire. Les détails avec Trifine Kaniwabo.
La famille de Justin Sibomana, à Diaspora, qualifie d'illégal la détention. Pour la famille, Para est victime des autorités de la province qui veulent couvrir la chef de la colline, Gachacha, qui a autorisé l'abattage de la vache. Des sources émanant du commissariat provincial de Lomongue disent qu'il y a un plan de transfert de ce détenu vers la prison centrale de Mulembe dans la même province de Lomongue. Cependant, plus d'une semaine après, le concerné n'a pas encore été auditionné. Ses proches demandent que le leur soit libéré. La vache a été abattue sur la colline Gachacha dans la soirée de mardi de la semaine passée, alors que la mesure du gouvernement interdisait l'abattage des ruminants suite à la fièvre de la vallée du Rift, qui secoue le Burundi. Justin Sibomana, alias Para, a informé les autorités locales pour que la population ne consomme pas cette viande, selon nos sources à Lomongue. Les mêmes sources ont dit que le gouverneur de cette province, accompagné du directeur du bureau provincial en charge de l'élevage, a effectué une descente sur cette colline le lendemain. Ils ont réellement constaté que de la vache a été abattue et ont ordonné que le reste de la viande soit consommé, alors qu'une autre partie avait été déjà vendue. Une dame propriétaire de la vache a été arrêtée sur le champ. Elle est détenue au cachot du commissariat provincial de la police à Lomongue. À sa grande surprise, Justin Sibomana s'est vu arrêter sur l'ordre du gouverneur de Lomongue, l'accusant d'avoir commis un seul péché, celui d'alerter les administratifs sur l'abattage de cette vache. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas pu joindre par téléphone Consolateur Nitunga, gouverneur de la province Lomongue, pour qu'il s'exprime là-dessus.
Rendons-nous à Karusi pour terminer. Les habitants des communes Mutumba et Nyabikere en province de Karusi réclament la réhabilitation du pont reliant les deux communes. Cela fait 2 ans que ce pont s'est effondré, mais les travaux de réfection prennent du retard. Ce qui révolte ses habitants, c'est l'impunité dont jouit la sentinelle, accusée d'avoir détourné des sacs de ciment qui devaient être utilisés pour refaire ce pont. Cet homme a pourtant été pris en flagrant délit, selon ses habitants. Eddie Claude Nina Adjoué nous en dit plus.
Selon les sources recueillies par la radio Inzamba dans les deux communes de la province Karusi, c'est un veilleur de la journée connu sous le nom de Kinanga qui a été pris en flagrant délit après de charger le ciment qui était destiné à la construction du pont reliant les deux communes. Ce pont a été coupé depuis 2 ans. Selon les mêmes sources, cette coupure a entraîné un ralentissement du mouvement entre les communes Mutumba et Nyabikere. La population des deux communes avait de l'espoir quant à l'agence de routière du Burundi qui avait apporté ce ciment pour la construction de son pont. Et cela n'a duré que le temps de l'arroser car il a été détourné dans le stock par celui qui était chargé de veiller sur ce stock même.
Quand ce projet a été mis en place, on avait de l'espoir qu'il y aurait un léger mieux. Mais malheureusement, ça n'a pas été le cas, car ce ciment a été vite détourné par le veilleur du jour. Même la moto sur laquelle il transportait ce ciment à une destination jusqu'à maintenant inconnue a été appréhendée. Nous demandons à ce qu'il soit traduit en justice et puni conformément à la loi. Nous demandons la reprise de la construction de ce pont pour que le trafic entre les deux communes redevienne normal.
Vous saurez que le devis pour la construction de ce pont est estimé à 50 millions de francs burundais. La rédaction de la radio Inzamba n'a pas encore obtenu la version de la direction générale de l'agence routière du Burundi sur ce dossier.
Fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente soirée à tous. Au revoir.